Radio Kawa présente Ludographie comparée, une émission proposée par Mathieu Gou. Thème de l'émission.
Cette émission sera consacrée au jeu Super Mario Maker, sorti en 2015 sur Wii U et développé par Nintendo. Nous l'étudierons sous l'angle de son environnement musical, et notamment dans la façon dont les bruitages épousent la construction des niveaux que l'on peut élaborer.
Première partie, présentation et problématique.
Beaucoup de joueurs ont fait leurs premières armes, et ont appris du jeu vidéo, par l'intermédiaire de la série Super Mario, que cela fût en deux dimensions ou en trois, sur quelque console que ce soit. Nous en avons déjà parlé, et nous en parlerons encore. Il est un génie, dans tous les sens du terme, à cette série. Un amour, une passion, une intelligence rarement reproduite et rarement fourbie à ce point-là de perfection. Partant, il n'était surprenant que les joueurs réclament des logiciels susceptibles de laisser libre cours à leur créativité et de créer eux-mêmes leur propre niveau. La chose émana primairement des joueurs et on vit apparaître, au début des années 2000, Lunar Magic, un logiciel permettant de modifier à loisir, ou presque, Super Mario World, afin de créer des niveaux et des concepts entièrement originaux, jusqu'à aujourd'hui encore où la communauté est des plus vivantes. Ce n'est alors que tout récemment que Nintendo, après tant et tant d'attentes, choisit de rejoindre sa propre version du logiciel, peut-on dire, sous le nom de Super Mario Maker. Le concept est intuitif, le principe efficace en diable. Sur un canevas grillagé, le joueur se sert de l'écran tactile du pad de la Wii U, ou de la 3DS sur une future adaptation, pour disposer différents éléments, plateformes, ennemis, bonus, et construire un niveau de Super Mario de but en blanc. L'on peut faire évoluer le style, Super Mario Bros, Bros 3, World ou New, chacun venant avec des mécaniques de gameplay spécifiques qui ne peuvent parfaitement être reproduites dans les autres modèles et que l'on pourra exploiter à loisir. Mario, par exemple, ne peut prendre d'objets dans Super Mario Bros. En attrape, mais ne peut les jeter que devant lui dans Bros 3. Peut les lancer en hauteur dans World et peut, enfin et en plus de cela, tourbillonner avec l'objet dans les mains, dans l'itération New. Chacune de ces micro-variations, qui sont bien nombreuses, ont permis à des joueurs de par le monde de proposer des stages stimulants et passionnants qui rivalisent par endroits avec la qualité que Nintendo impulse dans ses propres productions. Ce qui m'a cependant personnellement fasciné ici, dans le processus de création, c'est la façon dont la musique tient un rôle prépondérant. Je ne parle pas uniquement des nouvelles pistes créées pour l'occasion, imitant le style du jeu sélectionné, pour des environnements n'existant alors point dans les originaux, ni des stages musicaux que l'on peut construire à l'aide des blocs notes de musique et qui font un bruit distinct selon leur hauteur et l'objet y rebondissant, mais bien de la façon dont chacun de nos gestes participe à la mélodie que l'on peut entendre. C'est une expérience sensorielle particulière, difficile à décrire. Lorsque nous sommes dans la phase de création, on peut lointainement entendre le thème du niveau se jouer, mais comme étouffé, rendu presque silencieux. Et puis, lorsque nous agissons, lorsque nous posons ou dessinons quoi que ce soit, une note supplémentaire se joint à la mélodie, dépendant et de l'objet choisi, et de l'endroit du stage où nous le posons, et du moment où nous le posons, corrélativement au thème du niveau. Comme une sorte d'improvisation de jazz, où chaque musicien apporte sa touche sans déséquilibrer l'ensemble, mais parfaitement interactive. Créer un niveau de Super Mario Maker, en ce sens, s'approche d'une symphonie. On pourra toujours s'étonner de la finition que Nintendo donne à ses productions phares. On s'étonnera surtout de ce choix et de l'immense travail que cela a dû donner et de l'intérêt que cela peut avoir sur notre gameplay. En ce sens, nous poserons la problématique de cette émission comme suit. Quel est le rôle de la musique dans la phase créative de Super Mario Maker?
Deuxième partie, de l'esprit des notes.
La musique de jeux vidéo est un sujet proprement fascinant, qui mériterait, et qui a mérité d'ailleurs, une émission à elle seule pour entrevoir ne serait-ce que le début de son intérêt. Nous nous arrêterons ici sur quelques éléments signifiants, en tâchant de nous orienter notamment sur la façon dont la musique peut participer au premier plan, au gameplay de nos jeux vidéo. Nous écarterons en ce sens, et de prime abord, les titres dans la musique, le son, composent une facette nécessaire du gameplay. Que ce soit par l'intermédiaire des rhythm games à la Beat the Beat, ou des jeux musicaux tels Guitar Hero ou Parappa the Rapper, ou encore dans des jeux où la musique est exploitée pour résoudre telle ou telle énigme, comme le bois aux oiseaux de The Witness, nous ne considérerons que les jeux dont la mélodie participe au gameplay, sans être une pierre angulaire de celle-ci. À proprement parler, ce sont les jeux qui peuvent se parcourir, se terminer, même une fois l'ensemble mis en sourdine. Non qu'il ne manquera point un élément, mais sa présence n'aide en rien le jeu. Pendant longtemps, la musique de jeux vidéo ne fut qu'un accompagnement, se jouant à côté de l'esprit d'un niveau ou d'une scène et venant dès lors souligner, à la façon d'un coryphée, la tonalité globale du moment que l'on traversait. L'endroit était-il joyeux, la musique se faisait prime sautière. Explorons la base ennemie, le menaçant sortait des enceintes, et ainsi de suite. En général, toutes ces pistes étaient énergiques, ce qui en fait aujourd'hui des sélections de choix pour travailler, tandis qu'on les joue, tant elles savent impulser du dynamisme. Mais leur écoute, indépendamment des souvenirs associés au jeu, se fait souvent délicat, notamment pour les profanes. Progressivement néanmoins, et des compositeurs comme Nobuo ou Uematsu sont à saluer ici, la musique sut s'émanciper de son support et sans pour autant trahir sa nécessaire promesse d'accompagnement, sut se faire émotionnellement signifiante. Il ne s'agit plus ici de répéter un sentiment que l'on percevait qui par les graphismes, qui par les événements, mais de les devancer, de les amplifier, de les co-construire. C'est la période où les éditeurs virent à quel point il serait lucratif de vendre la bande originale des jeux à part de ces derniers, et que disparurent progressivement, bien que non totalement, les sound and music tests que l'on trouvait pourtant souvent lors de la période des 8 et des 16 bits. C'est aussi la période où, à l'instar de ce que l'on a dans Banjo-Kazooie ou Banjo-Tooie, la musique évolue en fonction de l'environnement traversé, selon que l'on soit sur terre, sous l'eau, ou dans telle ou telle sous-zone spécifique du stage. Partant, la musique dans le jeu vidéo est polymorphe et endosse plusieurs rôles. Premièrement, elle doit accompagner l'action, c'est-à-dire ne pas être en dissonance avec celle-ci. Deuxièmement, elle doit co-construire l'émotion, c'est-à-dire être en elle-même signifiante. Troisièmement, elle doit être informative, c'est-à-dire participer pleinement au sens de la scène que nous traversons. Aujourd'hui, et de plus en plus, il est difficile de jouer pleinement en sourdine. Chaque joueur vous le dira, nous perdons quelque chose ce faisant, tout comme l'on perdrait une part importante de notre expérience filmique en ne conservant que les dialogues, et raison pour laquelle les sous-titres pour sourds et malentendants précisent toujours l'environnement musical où nous nous trouvons. Rapporté à notre modèle sémiotique, l'on peut dire que la musique est un multisigne. Signe en et par elle-même, elle participe également étroitement à plusieurs autres réseaux, qui de gameplay, qui d'histoire, qui d'environnement, sans perdre un instant de son individualité. C'est aussi la raison pour laquelle, à ce qu'il nous semble, une excellente musique peut sauver un jeu médiocre de l'oubli. Mais une musique médiocre peut bien également, et quant à elle, détruire le plaisir que nous pouvons avoir dans un jeu au gameplay des plus léchés.
Troisième partie, le geste et l'harmonie.
Revenons dès lors à la musique entendue lors de la phase de création de Super Mario Maker. l'on peut lui prêter d'ores et déjà deux rôles parmi les trois que nous avons identifiés, de façon assez évidente. Tout d'abord, elle accompagne évidemment l'action de créer, de la façon la plus simple qui soit, en se modifiant au fur et à mesure que nous ajoutons des éléments. Elle est également informative, puisque sa tonalité nous renseigne sur la hauteur, réelle, où l'élément se trouve, et la nature du dit élément le cas échéant, en complément du sprite que nous manipulons. Est-elle cependant émotionnellement chargée? Pour répondre à cette question, il nous faut revenir plus précisément au type d'émotion que l'on pourrait ressentir dans un logiciel du genre, émotion qui nous semble bien distincte de celle éprouvée dans tous les autres jeux vidéo. Nous l'avons souligné maintes et maintes fois. Le jeu vidéo se fonde d'une part sur le schéma du type action-récompense, le moindre geste se traduisant par une réaction quelconque, d'autre part sur l'accumulation de la puissance, le ou les protagonistes acquérant des pouvoirs et des objets supplémentaires au regard du début de leur aventure, enfin sur la résolution de labyrinthes, tous les jeux, même les plus linéaires, se présentant comme des sortes d'énigmes qu'il nous faut résoudre, c'est-à-dire où il nous faut trouver la bonne série d'actions, quelle qu'elle soit, pour terminer le niveau en cours ou résoudre ce certain problème. Nous n'avons que petitement cela dans un logiciel de création, de Super Mario Maker à Little Big Planet, jusqu'à des objets comme Paint ou Photoshop qui, in fine, se retrouvent dans la même catégorie. Bien qu'à une extrémité du spectre, génériquement définie, peut-on ajouter. Si l'on peut effectivement juger que le simple fait de produire quelque chose est du ressort du modèle action-récompense, un clic de souris ou telle action ayant une contrepartie immédiate sur la feuille fictive que nous présente l'écran, difficile de parler d'accumulation de puissance ou de résolution de labyrinthe. Du moins, ces éléments ne sont pas inhérents au programme en lui-même. On pourrait effectivement considérer que dans ces gestes créatifs, l'accumulation de puissance est corrélée à une meilleure maîtrise de l'outil et au fait de se sentir grandir et de s'améliorer dans la peinture ou le dessin ou le level design. Mais elle n'est pas directement proposée par le logiciel. Celui-ci ne fait que proposer des outils. Et de la même façon qu'acheter une scie n'a pas pour vocation de faire de vous un meilleur bricoleur, Super Mario Maker ne vous propose rien d'autre que de créer des niveaux, non de vous guider vers une meilleure appréhension de ce qui fait un bon niveau. Il en va de même pour la résolution du labyrinthe. Le logiciel est une feuille blanche. Le labyrinthe sera construit par le créateur, destiné à être résolu par les futurs joueurs de son œuvre. Partant, la musique, de prime abord et si elle est présente, semble s'appauvrir sémiotiquement. Du moins, les contingences du logiciel de création l'empêchent de rentrer en réseau avec ses autres mécanismes et d'être ainsi particulièrement remarqué ou même attendu. Cela rend alors la décision de Nintendo, dans Super Mario Maker, non seulement atypique, mais également d'une grande puissance signifiante. Cela se fait par un déplacement du rôle de la musique, et en faisant appel à une intuition que nous avons toutes et tous ici, celle de l'harmonie naturelle des sons. Tout le monde n'est pas musicien, tout le monde n'a point l'oreille absolue, ou sait écrire de la musique. Mais de la même façon que nous sommes sensibles à la beauté plastique, culturellement certes, mais sans doute également intuitivement, nous avons une appétence particulière de la façon dont une musique est juste et dont une musique est fausse. On peut bien dire, et cela avec raison, que la beauté est toute subjective, que des goûts et des couleurs, l'on ne discute point. Mais tout un chacun percevra immédiatement une fausse note dans une symphonie ou une chanson, indépendamment de son origine, de sa culture ou de sa connaissance musicale. Une fausse note l'est irrémédiablement. Nous pouvons la repérer immédiatement, voire la modifier en conséquence. Partant, Le choix fait de douer n'importe quel geste créatif, dans Super Mario Maker, d'un accompagnement musical en accord avec le thème du stage construit, sert, il nous semble, deux interprétations d'importance. Premièrement, qu'il n'est pas, de prime abord, de mauvais choix créatif. Poser un élément, quel qu'il soit et où qu'il soit, ne créera jamais de dissonance dans la mélodie. Cela réinvestit le schéma action-récompense, d'une façon certes naïve et puérile, à la façon dont l'école des fans peut récompenser le moindre de ses participants, de quelque niveau soit leur présentation, mais diablement efficace. Mais il est davantage. Car en eux-mêmes, ces éléments s'harmonisent entre eux lors de la constitution du niveau. Indépendamment du thème du stage, les sprites s'organisent les uns par rapport aux autres. Et si l'on tend l'oreille, l'on peut donc construire une mélodie et faire en sorte qu'aucune fausse note, cette fois relativement les unes aux autres, n'émerge de notre création. Pour reprendre une phrase jadis lue dans la presse, construire un niveau dans Super Mario Maker, c'est avant tout construire une symphonie, c'est-à-dire faire en sorte que chaque élément s'accorde agréablement avec ses précédents et ses subséquents. Il n'est pas à dire que cette recherche symphonique est nécessairement la marque d'un grand niveau, ou d'un niveau original. Mais elle sait incidemment guider le joueur patient vers l'amélioration et, partant, vers l'accumulation de puissance. Si Super Mario Maker n'est point dirigé vers l'enseignement ou l'éducation de level designer en herbe, il propose une voie inductive et instinctive. Première étape de celles et ceux qui voudront en faire davantage à l'avenir.
Quatrième partie, du jeu vidéo comme jeu rythmique.
Nous aimerions nous appuyer sur ce dernier élément et partir de l'exemple de Super Mario Maker pour développer une théorie nouvelle sur le rythme dans l'exercice du jeu vidéo. Nous distinguerons cette notion de celle, déjà battue, du flow, de la façon dont la difficulté du jeu épouse ou s'éloigne de la progression individuelle du joueur et que nous avions abordé, notamment, dans notre épisode sur Braid. Lorsque nous parlons ici de rythme, nous parlons davantage de sa définition musicale, c'est de la perception du mouvement induite par la période, la répétition ou la perception d'une répétition au sein d'une œuvre quelconque et de ses possibles changements et variations. Le rythme est, à l'instar de l'harmonie, une composante intuitivement repérée par chacun et chacune d'entre nous. Que l'on diffuse n'importe quelle musique, nous marquons de nos pas, de nos hochements de tête, de nos mains, le rythme sonore que nous percevons. Souvent même, nous n'y pensons point. De la même façon que le respirer, le boire ou le manger, il s'agit d'un réflexe inné. Qui peut encore se travailler, certes, mais qui nous est offert par le seul exercice de l'expérience sensible qui est la nôtre, dans le monde que nous traversons. L'on peut trouver du rythme dans la nature, mais aussi et surtout dans les œuvres d'art, qui conservent toujours une part d'humain en elles. Elles ne doivent pas nécessairement être en mouvement, d'ailleurs. Dans une cathédrale, la distance séparant les arches et les colonnes crée un rythme, perceptible que nous l'observions immobile ou en déambulant. Dans une peinture, la façon dont les éléments s'accordent les uns les autres, les jeux d'ombre et de lumière, les couleurs, rythment notre lecture de l'œuvre. Évidemment, la musique inclut directement le rythme comme élément principal de son économie. Mais on le trouve également en littérature, où le jeu des longueurs, des mots, des phrases, des paragraphes cadence la progression du sens. Et au cinéma, l'édition, la longueur des scènes, des plans, déterminent l'esprit du moment, et l'on sait qu'entre deux coupes distinctes, le rythme ressenti, lenteur ou vitesse, diffère notablement. Qu'en est-il alors du jeu vidéo ? de quelle façon pourrions-nous évoquer le rythme d'un jeu vidéo en évoquant l'intégralité de ses signes, non seulement sa musique, et en ne laissant évidemment point de côté son interactivité et son gameplay. L'on pourrait diviser les composantes rythmiques d'un jeu vidéo de distinctes façons. Par exemple, en analysant la façon dont ces obstacles se succèdent, dans un jeu de plateforme par exemple. Megaman s'est fait une spécialité de cela. Le jeu nous présente d'abord un obstacle dans un environnement sécurisé, pour en étudier le fonctionnement. Puis, un second. Enfin, leur combinaison. Puis, leur perversion, nous demandant de les aborder d'une façon innovante. Cette répétition est un rythme. On peut également mesurer la distance séparant les obstacles entre eux, la durée demandée pour atteindre la prochaine épreuve, comme les quêtes qu'il nous faut accomplir dans Ocarina of Time entre deux donjons, pour y accéder ou pour ouvrir son accès, certaines étant plus brèves ou plus longues que d'autres. On peut chronométrer le temps mis pour vaincre tel ou tel patron, ou finir tel ou tel niveau, que l'on se presse ou non. Tout cela est assez évident, mais l'on pourrait, ce nous semble, aller plus loin. Si le rythme est fondé sur le principe de répétition, et qu'en lui-même, le jeu vidéo est une répétition comme nous l'avons plusieurs fois évoqué au long de nos précédentes émissions, puisque nous ne faisons que répéter les mêmes actions effectivement, sauter, tirer, construire ou détruire, le tout délimité par les opérations de la programmation et sans que l'on ne puisse innover, alors, par essence, ce n'est pas que l'on trouve du rythme dans un jeu vidéo, mais c'est que le jeu vidéo est un exercice rythmique. Cela s'irradie dans le moindre moment, dans sa moindre composante, dans celle que nous avons listée, les apparitions des ennemis, la période des plateformes, la célérité avec laquelle on ouvre une porte ou ramasse un objet, et les jeux d'imposer leur rythme de différentes façons. Rien que de choisir de ne pas mettre le jeu en pause lors de l'exploration des menus, comme dans la série des Dark Souls, au contraire de jeux comme Breath of the Wild, impose un rythme au joueur qui doit s'y plier s'il prétend progresser dans sa partie. Mais plus largement, il n'est pas interdit de voir n'importe quel jeu comme un exercice de rythme. Cela m'avait particulièrement frappé avec Punch-Out sur Wii. Si les premières rencontres sont anarchiques, on décrypte progressivement la mélodie du combattant, on prend le tempo. Et enfin, une fois celui-ci assimilé, la victoire est là. Envisager le jeu vidéo comme musique, c'est filer une métaphore qui semble productive. La répétition, les gammes, l'exercice, le grand soir du concert. Nous réserverons ces problématiques pour une prochaine émission et nous terminerons celle-ci par ces prolégomènes.
La culture, c'est comme la confiture, il y a tellement de choix qu'on ne sait pas quoi prendre. Pas de panique, pour vous aider à faire le tri, il y a Allo Central, livre, film, série, musique, sortie. Installé dans la taverne de Luxbox, les chroniqueurs d'Allo Central décortiquent vos loisirs préférés, de la culture pop à la culture générale. Allo Central, la culture sans modération, un mardi sur deux, sur Radio Kawa.